Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Emmanuel avait demandé à Franck Ferrand une émission sur la révolution iranienne. Espérons qu'elle soit à l'écoute cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Christian Pahlavi est le neveu adoptif du dernier Shah d'Iran. Il publie aujourd'hui un ouvrage décapant sur la révolution des ayatollahs. Je suis heureux qu'il ait pu être avec nous dans ce studio. Et pour nous rafraîchir les idées, si vous le voulez, je vais commencer par vous raconter le règne du dernier Shah.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Franck sur la raison de l'existence de tous ces fromages différents en France.
Oui, si l'on en croit le général de Gaulle, il y en avait encore plus que deux jours dans l'année. Pour le moment, nous partons pour un pays qui n'est pas celui du fromage, mais celui du caviar.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ferrand.
Pour les personnes de ma génération, le souvenir du Shah d'Iran est tout sauf indifférent. Nous avons encore à l'esprit les fastes et les splendeurs de sa cour orientale, digne du passé glorieux de la Perse. Mais nous n'avons pas oublié pour autant les brutalités d'une police que les médias occidentaux condamnaient sans cesse. La vérité de Mohamed Reza Pahlavi est sans doute entre les deux. Elle est peut-être à chercher aussi dans sa proximité avec la culture occidentale et dans sa francophilie. Francophilie d'un monarque à la fois moderne et traditionnel et qui avait décidé de faire de son pays une grande, une très grande puissance avec les conséquences potentielles énormes que cela pouvait entraîner pour les équilibres géostratégiques. Mohamed Reza Pahlavi était donc le dernier Shah d'Iran. Son père déjà avait eu l'intention de faire de l'Iran une grande puissance, débarrassée des tutelles extérieures, notamment britanniques, mais aussi soviétiques et américaines. Vous imaginez bien que ces trois puissances n'allaient pas laisser la famille Pahlavi aller jusqu'au bout de son grand dessein. La puissance américaine au premier chef n'aimait pas ce monarque ambitieux qui étalait sa richesse, qui avait mis la main sur le pétrole iranien et voulait doter son pays de l'arme nucléaire. La détestation des Américains allait devenir l'allié objectif des éléments les plus religieux de la société iranienne, qui, évidemment, eux non plus, n'aimaient pas ce Shah qui avait tendance à occidentaliser la société iranienne et qui, à leurs yeux, ne respectait pas l'islam suffisamment. Si cette histoire se dramatise à la fin des années 70, elle a commencé véritablement un quart de siècle plus tôt. Nous sommes en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale. Cela fait 7 ans que la Perse n'est plus la Perse, si je puis dire, et qu'elle a été rebaptisée l'Iran. Le Shah Reza Pahlavi, qui a modernisé et laïcisé son pays, a déclaré la neutralité de l'Iran. Or, il est assez proche d'un certain nombre de ressortissants allemands et il est contre leur expulsion du territoire. Cette expulsion est réclamée par les Alliés. Les forces britanniques et soviétiques vont en profiter pour envahir le pays. Je dis les forces britanniques et soviétiques, vous imaginez bien que dans cette affaire, c'est la Grande-Bretagne qui agit au premier chef. N'oubliez pas qu'elle a depuis longtemps le contrôle du pétrole iranien. En septembre, Reza Pahlavi abdique donc en faveur de son fils, Mohamed Reza. Son fils a 21 ans à cette époque et le jour même où il prête serment, on est le 16 septembre 1941, on voit entrer dans Téhéran quelques 200 000 soldats britanniques et 3 000 soldats soviétiques. Je dirais que l'image est suffisamment parlante, elle n'a même pas besoin d'être commentée. Alors, il faut s'imaginer ce qu'est ce nouveau Shah d'Iran, un grand garçon mince, timide, d'une grande beauté. Il a un physique qui fait songer à celui d'un acteur hollywoodien. Il a l'air, je dis bien, il a l'air timide. En grand uniforme de général, nous dit un reporter de la Nouvelle Gazette de Zurich, le Shah Mohamed Reza entra dans la salle et d'une voix à peine audible, lut son serment. Son père, Reza Pahlavi, est exilé à l'île Maurice. Ensuite, il ira à Johannesburg et c'est là qu'il mourra en captivité en 1944. Alors, évidemment, on est en pleine guerre et le nouveau monarque doit se concilier les alliés. En 1943, il reçoit la visite de Staline, qui l'appelle « mon cher fils ». Ça ne l'empêche pas, dans les années suivantes, de se montrer de plus en plus proche des Américains. En 1946, les troupes soviétiques quittent le territoire iranien. C'est essentiel, l'Iran, pour la Russie en général et pour les soviétiques en particulier. Et là encore, pour des raisons géopolitiques évidentes. On reviendra sur ces grands équilibres et sur cette géographie tout à l'heure. Les Américains sont donc là pour moderniser l'armée iranienne. Ils lui fournissent toutes sortes de matériel, d'équipements. Or, c'est à cette époque que, dans la partie la plus religieuse de la société iranienne, les mollahs commencent déjà à faire parler d'eux. Je parle des mollahs, n'oubliez pas que l'Iran est la grande puissance du chiisme, cette branche de l'islam qui se réclame du gendre du prophète et qui dispose, ce qui fait la grande différence, une des grandes différences avec le sunnisme, qui dispose d'un clergé. C'est essentiel ce clergé, parce que vous allez voir le rôle qu'il va jouer peu à peu au fil des années. Le plus menaçant, c'est Kachani, le chef spirituel de la secte religieuse des affidés de l'islam. Lui recrute des troupes pour former des commandos qui seront bientôt prêts à tuer. Les attentats ne vont pas tarder à se multiplier. En 49, le Shah est lui-même victime d'un des attentats. On tire quand même 5 coups de feu sur lui, en sa direction, et il est blessé. Mohamed Reza est blessé à la joue, à l'épaule. Alors, son agresseur va être littéralement massacré sur place par les officiers de la garde impériale. Et évidemment, il y aura des mesures de rétorsion. Kachani est arrêté, il est déporté, mais néanmoins, il conserve une grande popularité. Un peu plus tard, il sera élu député. Il reviendra à Téhéran. Nouvel attentat des affidés de l'islam en 1951. Vous voyez quand même que le pays est loin d'être pacifique. Le premier ministre, le général Ali Razmara, qui avait refusé de nationaliser le pétrole, est littéralement massacré alors qu'il se rendait à la mosquée au centre de Téhéran. Et l'ayatollah Kachani va s'écrier en public, après l'annonce de l'attentat contre le premier ministre, « Je bénis ces assassins ». Évidemment, c'est l'annonce pour lui d'un nouvel exil. Le ministre qui a prononcé le bannissement de Kachani va alors faire l'objet de menaces et pire que ça, il est bientôt assassiné. Et finalement, on voit Kachani rentrer en Iran. On peut dire que la violence a eu gain de cause. C'est très intéressant, cette affaire de Kachani au début du règne de Mohamed Reza Pahlavi, parce que d'une certaine manière, ça préfigure déjà ce qu'on verra se reproduire de façon beaucoup plus spectaculaire par la suite avec l'ayatollah Khomeini. En avril 1951, grâce à l'appui des factions religieuses, Mohamed Mossadegh, qui avait d'ailleurs été emprisonné sous le règne du précédent Shah, Mossadegh est élu Premier ministre. Alors j'ai eu l'occasion ici à ce micro de vous raconter l'histoire de la nationalisation des pétroles iraniens. C'est lui qui fait voter l'acte de nationalisation. Évidemment là, ça devient très embêtant cette histoire parce que ça menace directement les intérêts occidentaux en général et les intérêts britanniques en particulier. Quand on menace les Britanniques au milieu, ou en l'occurrence au début des années 50, généralement on signe son arrêt de mort.
Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film d'animation Persepolis de Vincent Parono et Marjane Satrapi, sorti en 2007, une musique signée Olivier Bernet. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur le règne du dernier Shah d'Iran et nous sommes de retour en 1951.
Mohamed Mossadegh est donc le premier ministre de l'Iran dans ce tout début des années 1950. Il a nationalisé les pétroles iraniens, ce qui bien sûr gêne beaucoup les Britanniques. Et avec Kachani, avec l'aide d'un certain nombre de factions religieuses, il va monter un véritable complot contre le Shah qui est obligé de se réfugier en Italie. Finalement, le 22 août 1953, grâce à l'intervention du général Zaidi, qui lui-même est aidé et soutenu directement par les États-Unis, le Shah peut faire retour en Iran. C'est un coup de théâtre incroyable. On le pensait en exil pour longtemps. En vérité, il revient, il fait arrêter Mossadegh, son autorité est rétablie. Évidemment, vu comme ça, on se dit que l'Occident possède désormais le meilleur des alliés. Et du reste, la politique que va mener à partir de là Mohamed Reza Pahlavi va être une politique pro-occidentale forte, avec à l'intérieur du pays le lancement de grands travaux. On lance tout un réseau de routes, de voies ferrées. Ça avait déjà été commencé du temps du père du Shah, du reste. Des aéroports, des hôpitaux, des écoles publiques, des universités. L'Iran se modernise à une vitesse extraordinaire. Téhéran devient une capitale moderne. Je vous précise que on est quand même en Iran, dans l'Iran chiite. Or, les femmes ne sont plus voilées. Mohamed Reza va continuer cette modernisation avec la charte de la Révolution blanche adoptée par référendum en 1962. On réforme complètement l'agriculture avec l'électrification des campagnes, des méthodes agricoles beaucoup plus simples, plus rapides. Un programme d'irrigation comme on n'en avait quasiment jamais vu. Il faudrait aller en Égypte pour voir un équivalent. Et encore, la société est un peu plus égalitaire. On répartit les terres de façon plus intelligente. Les ouvriers vont participer aux bénéfices des grandes entreprises. On nationalise l'eau et les grandes ressources naturelles. Le Shah va par ailleurs accorder aux femmes un certain nombre de droits politiques. Il crée le corps d'alphabétisation. C'est fondamental. Donc, c'est tout à fait spectaculaire ce à quoi on assiste en Iran à la fin des années 50, dans les années 60. C'est-à-dire, c'est une modernisation, c'est une démocratisation tout à fait spectaculaire. Cependant, bien entendu, ça ne peut pas plaire d'abord à toutes les franges de la population. Et puis, ça s'accompagne tout ça d'une police pour le moins efficace. Police en partie secrète chargée de surveiller, de réprimer les opposants au nom de la sûreté nationale. Alors, évidemment, à l'époque, ça passe très mal. C'est-à-dire que la modernisation économique et institutionnelle de l'Iran ne s'accompagnant pas d'une modernisation politique, vous imaginez bien qu'en Occident, on critique beaucoup le Shah. Et d'autant plus que la personnalité même de Mohamed Reza Pahlavi pose problème. Il a un petit côté bling-bling, comme on dirait aujourd'hui. Ce Shah d'Iran, il étale littéralement ses richesses. Et il va manifester la volonté d'asseoir la monarchie iranienne, de l'ancrer dans les siècles et même dans les millénaires. Et parfois, il faut bien dire que tout ça frôle la mégalomanie. C'est Christian et Pierre Pahlavi qui, dans le marécage des ayatollahs, écrivent « Comme Bonaparte devenant à la fin de son règne Napoléon, le monarque iranien s'apprête à opérer une troisième mue et à devenir l'empereur d'Iran, héritier de Reza Shah, mais aussi de Cyrus le Grand. » Et évidemment, parmi nos auditeurs, je pense que nombreux sont ceux qui se rappellent les grandes célébrations d'octobre 1971. Pendant 4 jours, on a célébré le 2500e anniversaire de la fondation de l'Empire perse. Alors, pour tout vous dire, la date était un peu fantaisiste. Je sais que mon vénéré confrère André Castelot avait participé d'ailleurs à l'établissement de cette date et au programme des festivités avec le Shah d'Iran sur le site archéologique de Persépolis, également à Parsagadès. Voilà ce que nous disent Christian et Pierre Pahlavi. Dans un étrange mélange de nativité et de mort, entre péplum hollywoodien et tragédie grecque, le show homérique, dont la version cinématographique fut intitulée « Lumière de la Perse », s'ouvrit sur un Orson Welles dithyrambique déclarant à la manière de Bonaparte au pied des pyramides que ce n'est pas la fête du siècle qui commence, mais la célébration de 25 siècles. Séparément, le Shah et la Chabanou ne manquent pas d'allure. Elle est grande, élancée, et lui a la silhouette élégante, le port altier. Le prestige du régime étant en jeu, rien n'est trop beau. Le sol a été recouvert d'immenses tapis de soie auxquels ont travaillé jour et nuit les meilleurs artisans d'Ispahan. Georges Truffaut, maître jardinier de Versailles et à ce titre successeur de Le Nôtre, a été chargé de couvrir plusieurs hectares de terres désertiques, de parterres de fleurs et de cyprès symbolisant l'éternité. Au milieu du désert iranien a été planté un somptueux camp du drap d'or inspiré de celui que François Ier avait fait ériger en 1520 pour divertir Henri VIII d'Angleterre. Festivité extraordinaire, faste médiatisé, le Shah d'Iran devient un peu un gêneur. Alors ça, c'est pour l'image. Vous imaginez bien que sur le fond, la politique qu'il mène est de plus en plus discutée. Alors évidemment, aux grandes festivités se trouvent présents l'empereur Haïlé Sélassié d'Éthiopie, les souverains des royaumes scandinaves, l'ex-roi de Grèce, le roi Constantin, le futur roi d'Espagne, Juan Carlos, la princesse Grace de Monaco, le roi Hussein de Jordanie, etc. Il y a aussi d'ailleurs les présidents non alignés, si je puis dire. Il y a Tito qui est là, on a aussi le président roumain Ceausescu. Il faut imaginer les bals, les bancs, le caviar, le foie gras, enfin bon, on a quelque chose de totalement extraordinaire et qui ne convient plus, disons-le, aux mœurs du XXe siècle. Comme l'écrivent Christian et Pierre Palavy, le chat ignore que tous les ferments de sa propre chute sont à l'œuvre. Et oui, la roche tarpéienne est toujours bien proche du Capitole.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Mohamed Reza Pahlavi fut le dernier chah d'Iran. Franck Ferrand, vous nous racontez la fin de son règne avant la révolution iranienne en 1979.
C'est très intéressant et c'est très paradoxal la situation de l'Iran dans les années 1970. D'un côté, les États-Unis, la France, les puissances occidentales en général voient l'Iran comme une sorte de rempart du monde libre. Il ne faut pas oublier que l'on est en guerre froide à l'époque et que l'Union soviétique est là, à deux pas, avec tous ses alliés, bien entendu. Mais par ailleurs, les Occidentaux voient d'un œil de plus en plus courroucé la puissance montante de l'Iran et notamment, ils n'acceptent pas la prise d'indépendance iranienne sur la question du pétrole. Ça, c'est absolument fondamental. Le chat sur la question du pétrole a beaucoup de projets très gênants, mais c'est à partir de février 1971 que les choses vont se crisper. En effet, il y a une organisation des pays exportateurs de pétrole à l'époque, hein, qu'on appelle l'OPEP, dont fait partie l'Iran du Shah, et l'OPEP va peu à peu se mettre à décider d'elle-même de fixer librement les prix du baril de brut. Et ça, évidemment, ça ne passe pas du tout. Le 16 octobre 1973, c'est pas une date qui a été choisie au hasard, on est en pleine guerre du Kippour, en réaction à l'aide apportée par les États-Unis à Israël contre l'attaque égypto-syrienne, qui elle-même était soutenue en sous-main par les soviétiques, les membres de l'OPEP augmentent le prix du baril de brut. Or, qui a lancé les opérations et qui a soutenu cette décision d'augmenter le prix du pétrole, c'est le chat lui-même. Or, quand je vous dis que le prix du pétrole augmente, le baril passe de 3 à 12 dollars, une augmentation immédiate de 300%. L'Iran voit ses revenus en hydrocarbures passer de 1,5 milliard de dollars en 72 à 4,5 milliards en 74, à 18 milliards en 1975. Autant dire qu'on est en train d'assister à l'enrichissement phénoménal d'une puissance qui, par ailleurs, est devenue une puissance moderne, là, au centre même du Moyen-Orient. Les villes, les réseaux de transport, les ponts, les hôpitaux dont je vous parlais, tout ça n'a cessé de se développer. En 74, le taux de croissance en Iran est de 40%. Ça nous fait rêver, nous, aujourd'hui, ça, évidemment. Avec une classe moyenne cultivée, très bien éduquée qui émerge et qui va peu à peu tailler des croupières un certain nombre d'ingénieurs, un certain nombre d'universitaires occidentaux. La démocratisation se poursuit timidement, certes, mais quand même, les femmes peuvent accéder aux universités en Iran. L'enseignement est gratuit, on a nationalisé les écoles, etc. Voilà ce que le Shah lui-même, dans Réponse à l'histoire, voilà ce que Mohamed Reza Pahlavi écrivait, je le cite. Ce n'est pas nous qui avons dressé le bilan extraordinairement positif des dernières 25 années de l'existence de l'Iran, mais bien l'ONU. Dans les domaines les plus divers, politiques, éducatifs, sociaux, économiques, nous avions pris la tête des pays en voie de développement. Au début de mon règne, le chiffre des écoliers et étudiants était de 400 000. En 1978, il dépassait 10 millions, dont plus de 185 000 étudiants dans les 18 universités et les 137 écoles supérieures existantes. Or, le Shah a bien l'intention de développer encore les choses. Il a l'idée, tout simplement, de créer, instituer la troisième superpuissance entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et pour ça, il lui faut doter son pays de l'arme atomique. En 7 ans seulement, le budget de la défense iranien a été multiplié par 10. Et je ne vous rappelle pas, évidemment, l'intervention de l'Iran, sa prise de participation dans des affaires nucléaires occidentales, européennes en l'occurrence. Alors c'était du nucléaire civil dont on parle, mais vous savez bien que qui dit maîtrise du nucléaire civil dit accessite pour le nucléaire militaire, bien entendu. En 1973, par l'intermédiaire de la Fondation Pahlavi, le Shah avait fait l'acquisition en plein Manhattan d'un building gigantesque, le Depina, haut de 50 étages sur la 5e avenue. Vous savez, il suffit de voir comment sont perçus aujourd'hui les investissements du Qatar dans divers pays occidentaux pour imaginer ce que pouvait être la perception des investissements iraniens dans l'immobilier de luxe en plein milieu de New York. En 1975, le Shah lance un parti unique qui s'appelle Résurrection Nationale et un an plus tard, pour le cinquantenaire de sa propre dynastie, la dynastie Pahlavi, là on est loin des 2500 ans de la couronne de Perse, le Shah arrive en hélicoptère. Il a d'ailleurs institué un calendrier impérial qui va se substituer au calendrier islamique. Attention, attention, a-t-on envie de dire. C'est-à-dire qu'en fait, ce que ne réalise pas dans son espèce d'enthousiasme à moderniser l'Iran, ce que n'a pas réalisé Mohamed Reza Pahlavi, c'est qu'il était en train de multiplier les ennemis des deux côtés, si je puis dire. D'un côté, ses alliés, y compris ses alliés très chers, comme pouvait l'être la France, comme pouvait l'être l'Europe d'une manière générale, se méfient de plus en plus de lui. Je ne parle même pas de ce qui se dit à Washington, où le Shah, depuis le début de la présidence de Jimmy Carter, est conçu purement et simplement comme une sorte d'ennemi qu'il va falloir freiner un jour ou l'autre. Mais de l'autre côté, à l'intérieur même du pays, les résistances sont de plus en plus fortes. Cette modernisation à tout craint heurte ce qui, dans le clergé chiite, a de plus réactionnaire ou en tout cas de plus conservateur. Évidemment, toute cette violence qui s'était manifestée dans les débuts du règne a été contrôlée, a été maîtrisée par la police du Shah. Jusqu'où ? La question qui se pose finalement, c'est de savoir ce qui va se passer le jour où les ennemis de l'extérieur et les ennemis de l'intérieur vont créer une sorte d'alliance objective pour faire tomber le Shah d'Iran. Bonjour Christian Pahlavi, vous portez ce nom célèbre, il faut que vous nous expliquiez pourquoi.
Ce nom m'a été donné alors que je n'avais que 5 ans, lorsque le frère puiné du dernier Shah d'Iran, le prince Ali Reza Pahlavi, qui représentait symboliquement la participation de l'Iran à la coalition des alliés contre le Troisième Reich, a connu ma mère à l'ambassade d'Iran, en est tombé amoureux, l'a épousé et m'a reconnu comme son fils. Ce qui était un peu risqué, mais c'était un jeune homme, n'est-ce pas ?
Vous êtes donc le fils reconnu du frère du Shah d'Iran, en fait. Voilà. Alors, dans un instant, nous allons venir sur cette révolution de 1978-79. Vous lui avez consacré un ouvrage avec Pierre Pahlavi.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
La révolution iranienne est au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le neveu adoptif du dernier Shah d'Iran, Christian Pahlavi, auteur avec Pierre Pahlavi du livre « Marécage des Ayatollahs, une histoire de la révolution iranienne » paru aux éditions Perrin.
Oui, alors ce titre et le nom des deux signataires pourraient faire penser qu'on est en présence d'un ouvrage extrêmement à charge contre les ayatollahs. En vérité, c'est un livre très mesuré, très équilibré que vous avez écrit, Christian Pahlavi. Cette histoire de la révolution iranienne se veut très objective, je pense qu'elle l'est largement. Alors, je parlais de cette opposition, de cette montée des périls en quelque sorte pour le Shah. Est-ce que Mohamed Reza Pahlavi voyait croître l'opposition intérieure et l'opposition extérieure à son régime?
Je crois que non, bien qu'il ait été un homme extrêmement informé, extrêmement cultivé, mais je crois qu'il n'avait pas cette espèce de clairvoyance d'un véritable animal politique. Le Shah était un rêveur, un penseur, et je crois qu'il est un petit peu mort comme une sorte de Saint-Sébastien, percé par des flèches de couleurs différentes. Il y a généralement 3 suppositions, 3 analyses différentes. Pour les uns, le Shah est la victime des intrigues de l'étranger. Pour d'autres, il est le monarque, le potentat renversé par la rue, par une rue furieuse, hors d'elle, frustrée. Et pour un troisième groupe, il est le responsable de ses propres bévues, de ses erreurs. Et je crois que pour son malheur, et pour notre malheur à tous, et pour peut-être un petit peu le malheur du monde, et certainement de l'Iran, les trois choses ont existé et se sont ajoutées.
Ce n'est pas l'un ou l'autre, ce sont les trois, en fait. Oui, vraiment.
Les trois. Et c'est pour ça que notre livre est assez épais.
Mais évidemment. Voilà. Alors nous allons, on ne pourra pas revivre tous les aspects, bien entendu, mais il est quand même très intéressant de revenir sur les différentes phases de cette révolution. Alors, le ferment même de la révolution, il se trouve à l'intérieur de l'Iran et il est dans le clergé chiite.
Je pense pouvoir dire que les Iraniens, malgré tous les cadeaux qui leur avaient été faits par les deux souverains de la dynastie Pahlavi, n'ont jamais été très très partisans de cette dynastie et de ses rois. Mais ça, c'est une impression personnelle. Une espèce de rancœur qui n'était certainement pas méritée, mais qui était là. À partir du moment où les Persans, qui sont des gens, eux, qui sont des animaux politiques, ont perçu que l'élection de M. Jimmy Carter allait changer les données, il y a eu d'abord des murmures, puis ce murmure est devenu un brouhaha et finalement une clameur. Et quand on voit les grandes marches de la fin de l'année 1978, auxquelles participaient des ennemis, des marxistes avec des religieux, et même des gens du palais ont marché. C'est assez extraordinaire de voir cette espèce de, je dirais pas unanimité, mais de quasi-unanimité de la rue, des salons, pour chercher autre chose, pour vouloir autre chose.
Mais qu'est-ce qu'on voulait exactement? Parce que donc on est là à partir de l'été 1978, la rue entre en rébellion à Téhéran, il y a des violences, la police du Shah fait ce qu'elle peut, mais elle est débordée à plusieurs reprises. On se rappelle, enfin moi je me rappelle en tout cas, d'avoir vu au journal télévisé à l'époque, on nous montrait des images un peu inattendues, parce que jusqu'ici l'Iran c'était le pays de la paix, de la splendeur, etc., de la modernisation, et d'un seul coup on voyait des gens qui jetaient des cailloux, etc. Est-ce qu'on peut comparer ce qui se passait un peu à mai 68, 10 ans plus tôt en France? C'était une révolution comme ça d'intellectuels? Qui était à l'œuvre?
Par certains côtés, oui. Les gens avaient été gâtés, nourris. On peut comparer souvent les peuples à des enfants. Le peuple iranien constituait une enfance gâtée avec...
Il y avait quand même des adultes dans ce peuple, si je puis dire, des consciences adultes.
Mais je crois que la seule chose qui manquait finalement, le seul cadeau qui avait été refusé aux Iraniens, c'était finalement la liberté politique. Parce que la création d'un parti unique, le Shah a reconnu... dans son exil, que c'était une erreur. C'était une provocation qui devenait intolérable. Vous savez, il y a un auteur français qui s'appelle le duc de Lévis qui dit que les gens vivent des conditions moyennes. Ils veulent mieux, ils découvrent le mal et ils le conservent parce qu'ils ont peur du pire. Je crois que le peuple iranien en est là. Je crois qu'à son corps défendant, il le regrette, je pense qu'il y a un énorme regret. Peut-être que justement cette impression que le Shah avait d'avoir tout fait, de mériter la reconnaissance. Sur son lit de mort, il disait à ceux qui l'entouraient, à ses proches, mais pourquoi? Il a été le plus surpris par cette rancœur alors qu'il n'avait fait que des cadeaux.
La réponse à cette question pourquoi, elle est peut-être à chercher au moins autant dans les chancelleries occidentales que sur place dans les rues de Téhéran. Mais pour continuer sur la révolution elle-même, vous avez mis en couverture de cet ouvrage, évidemment, un grand portrait de l'ayatollah Khomeini. C'est lui qui est à l'origine de tout ça. Il faut nous expliquer d'où il vient. Qui est-il, ce personnage?
Ce portrait est d'autant plus paradoxal qu'il est gigantesque, qu'il représente... Il a pris place de ce qui est une bouteille de 7-Up ou de Coca-Cola d'habitude en Occident, et que l'islam réprouve la représentation.
Oui, théoriquement des images, oui.
L'ayatollah Khomeini était un homme extrêmement peu cultivé, fabuleusement intelligent, extraordinairement rancunier.
D'où venait-il?
Le clergé iranien en général, contrairement à l'épiscopat chrétien, où l'on voit des gens comme Richelieu ou Mazarin, des gens appartenant à des grandes familles, le clergé chiite se recrute généralement parmi des gens très simples. Il venait d'une toute petite ville du centre de l'Iran. Il suivait son chemin médiéval, méprisant et méconnaissant l'évolution de son temps. Il avait certainement une extraordinaire force de caractère. Et il a repris sa démarche comme si Ali venait de mourir, oubliant tout le chemin parcouru par son pays, tout le chemin parcouru par le monde, mais avec une confiance en soi, en confiance en, en ce qu'il défendait, en sa religion.
Alors, ce qui était incroyable, c'est que cet Ayatollah Khomeini, qui devenait un facteur de trouble très très sérieux en Iran, est parti en exil en France. Alors, j'ai eu l'occasion, ici même, à ce micro, de poser la question au président Giscard d'Estaing, lorsqu'il est venu pour l'émission qui est consacrée au 40e anniversaire de son élection. Je lui ai dit, comment la France a-t-elle pu accueillir l'Ayatollah Khomeini, qui était l'ennemi juré d'un des grands alliés de la France, c'est-à-dire le Shah d'Iran. Et le président Giscard d'Estaing m'a dit, mais c'est le Shah lui-même qui nous a demandé de le recevoir.
Je ne pense pas personnellement, je ne suis pas au courant de tout, mais je ne pense pas que le Shah ait demandé au président de la République française de recevoir l'un de ses pires ennemis. Mais il est certain, il est avéré que lorsque le président Giscard d'Estaing a demandé au Shah s'il devait intervenir, empêcher, réduire... Le Shah s'est empressé de lui dire qu'il fallait laisser Khomeini tranquille.
Et pourquoi cela ?
Je pense d'abord, le Shah qui gonflait ses plumes comme certains oiseaux pour faire peur, était, je l'ai connu depuis l'enfance, je pense que c'était un homme doux. Son éducation suisse faisait que, bien que dirigeant une dictature, il y avait un fond de volonté démocratique en lui. C'était un homme qui gâtait son peuple, qui gâtait un peu tout le monde, qui cherchait plutôt à plaire plutôt qu'à contraindre et qui espérait que la révolution s'essoufflerait peut-être en France. Or, elle a pris de l'ampleur.
Avec les cassettes, hein, ça paraît bizarre, mais c'est ce petit instrument nouveau, là, c'est-à-dire la cassette audio qui va donner aux propos de l'Ayatollah Khomeini un retentissement considérable en Iran, parce qu'il enregistrait des cassettes qui étaient dupliquées et distribuées partout, en fait.
Voilà, et qui parvenaient, qui pénétraient l'Iran, qui se vendaient sous le nom de cassettes blanches, vides, mais elles étaient enregistrées.
Tout ça venait de Nofle le Château, non ?
Tout ça venait de Nofle le Château, qui était quasiment la seconde capitale de l'Iran pendant quelques mois, puisque l'Ayatollah Khomeini a séjourné 3 mois en France.
Alors, le Shah va finir par céder. Est-ce que son état de santé, son état moral a contribué à ce départ un peu rapide? On est en janvier 1979.
Certainement, le cancer du Shah avait pris une certaine ampleur. Les médecins se conviennent que les facteurs psychologiques ont une grande importance dans l'évolution des cancers. Je crois que ce qui l'entourait, ses grandes marches, son affaiblissement personnel, fait qu'il a pratiquement débranché à partir de l'automne 1978. Et il s'est résigné à partir, à être emporté par le courant du temps. Il y a eu une espèce de résignation qui était peut-être un peu orientale aussi. Il était stupéfait, c'est un homme qui est mort stupéfait, qui a eu l'impression d'être trahi par tout le monde, et alors, il n'avait peut-être pas tort.
Vous nous disiez à l'instant que vous l'avez évidemment très bien et personnellement connu. Avant de continuer dans cette révolution iranienne et d'évoquer ces différents épisodes, je vous propose dans un instant de revenir sur la personnalité même du Shah.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
La révolution iranienne et le dernier Shah d'Iran sont au cœur de l'histoire. Votre invité, Franck Ferrand, est le neveu adoptif de Mohamed Reza Pahlavi, Christian Pahlavi, auteur du livre Marécage des Ayatollahs, une histoire de la révolution iranienne, paru aux éditions Perrin, un ouvrage écrit avec Pierre Pahlavi.
Qui est ce Pierre Pahlavi, Christian Pahlavi ?
Pierre Pahlavi est d'abord un politologue.
C'est votre fils d'abord.
Mais c'est ensuite mon fils. C'est mon fils puiné, c'est le deuxième de mes fils. Il est professeur au Collège des Forces Militaires Canadiennes à Toronto.
Alors vous avez donc co-signé ce bel ouvrage sur la révolution iranienne. Nous allons revenir sur les différents épisodes de la révolution, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur la personnalité du Shah. On a une double image en Occident. On a d'une part l'image de ce souverain extraordinaire au moment des grandes célébrations de Persépolis en 1971. Là, c'était vraiment une sorte de personnage inaccessible qui, par ailleurs, était capable de manifester beaucoup d'autorité, et notamment à travers cette police politique qui tenait littéralement le pays. Et puis, d'un autre côté, on a l'image de l'homme qui est à Courchevel sur ses skis, qui aime le cinéma américain, qui vit de façon très occidentalisée, les belles images des réceptions dans la Galerie des Glaces à Versailles, etc. Où se situait la vérité du personnage, vous qui l'avez si bien connu ?
Vous me permettrez de faire une comparaison. J'ai appris à l'École des sciences politiques de Paris la pratique de la typologie. Pour que vos auditeurs puissent bien peut-être percevoir Mohamed Reza Shah Pahlavi, il faut le comparer à un Napoléon III, c'est-à-dire à un homme finalement fragile, malade, aimant les femmes, lorsqu'on approchait Mohamed Reza Chapalavi, la photo disparaissait et la chair parlait. C'était un visage beaucoup plus doux que sur ces photos. C'est quelque chose qui est difficile à exprimer. Il avait d'abord un regard immense, un regard très profond. Il cherchait, on sentait le séducteur, il cherchait à plaire même à un enfant, même que j'étais. Il est toujours resté ça. Il avait été élevé par un homme d'une force extraordinaire, une force physique, un véritable géant, un cosaque, qui est le fondateur de la dynastie, qui l'attachait à ses pas. Et bien qu'il ait envoyé son fils en Suisse pour une certaine formation, lui avait imposé, inculqué, il était le continuateur du cosaque. Mais je pense que ce costume ne lui allait pas, en fait. Mohamed Reza Chapalavi, c'est un point de vue personnel, il aimait la technique, il aimait le progrès. Il aurait pu être un ingénieur américain, s'occuper des eaux et forêts suisses. Mais il tenait au rôle qu'on lui avait donné et il a voulu être Cyrus, il a voulu être le second Palavi. Il a fait de son mieux. Il a raté. Il a amené l'Iran au niveau du take-off tout de même.
C'est où on l'a fait rater, alors c'est toute la question. Il avait une grande confiance dans ses alliés occidentaux et notamment, c'est un paradoxe, dans ses Américains qui n'ont rien fait pour le soutenir.
Vous savez que le Shah, il a eu son Amérique, comme nous tous. L'Amérique, c'est notre mirage. Alors pour un oriental, le mirage est occidental. Et un de ses premiers voyages hors d'Iran en tant que roi, jeune roi, il n'y avait pas 30 ans, c'est l'Amérique. Le président Harry Truman lui envoie son avion personnel, qui s'appelle l'Indépendance. Il part pour les États-Unis pour voir son rêve américain. Il fait escale aux Açores. Quand il fuira quelques mois avant sa mort, il refera escale aux Açores. Mais là, dans ce premier voyage, lorsqu'il revient, il revient avec un avion privé. Et les Iraniens disent... Vous savez que l'avion du président Truman s'appelait l'Indépendance. Et les Iraniens disent « le Shah a perdu son indépendance ». Et son destin était désormais lié à celui des États-Unis.
Lorsqu'il part en janvier 1979, c'est pour les États-Unis initialement, c'était son idée.
C'était son idée et c'est la promesse qu'on lui avait faite. Il se trouve que le beau-père de ma femme, qui a été le grand maître des cérémonies de l'Iran et qui, ce monsieur est toujours en vie, vit d'ailleurs la moitié de l'année, c'est l'exilarque, c'est un homme délicieux, c'est la plus grande personnalité vivante de l'Iran. Ce monsieur, qui est un homme de grande foi, de grande honnêteté, est le premier témoin des promesses qu'on a fait au Shah. On a dit au Shah, vous irez aux États-Unis, vous serez reçu en personne privée, vous y soignerez. Mais au dernier moment, on lui a fait faire escale en Égypte parce que le Shah avait beaucoup aidé aux accords de Camp David. Il avait toujours été aussi un protecteur un petit peu à la Cyrus du peuple juif et il avait reconnu de facto Israël. Donc, il était ami avec Anwar Sadat. Il avait rendez-vous à Aswan avec Sadat.
On était juste au moment des accords de Camp David, là.
Voilà, et il avait joué au maximum pour la conclusion de ces accords. Donc on lui a dit, arrêtez-vous à Aswan, vous rencontrerez Sadat. J'ouvre une parenthèse, un chevalier de notre temps. Et vous rencontrerez l'ancien président américain Gerald Ford. Le Shah s'est arrêté à Aswan, puis il a voulu reprendre sa route pour les États-Unis. Bassader Afshar, c'est-à-dire le beau-père de ma femme dont j'évoquais la silhouette tout à l'heure, a pris contact sur ordre du Shah avec l'ambassadeur américain au Caire et l'ambassadeur lui a dit « la venue du Shah n'est plus envisageable aujourd'hui ».
Donc le Shah était... Ça fait toute proportion gardée dans un tout autre contexte, mais ça fait penser à l'attitude de la couronne britannique à l'égard de la famille impériale russe en 1917. Hein, c'est un peu la même... C'est-à-dire que... Venez, puis finalement, vous n'êtes pas les bienvenus.
Et Monsieur Ferrand, vous êtes un grand connaisseur de l'histoire et on peut considérer que la révolution islamique est l'une des trois grandes révolutions de l'histoire
contemporaine
après la révolution jacobine et la révolution bolchevique. Mmh. Sous des formes avec des visages très différents, voilà trois grandes révolutions qui ont ébranlé le monde.
En partant, le Shah confie le pays au Premier ministre Shapur Bakhtiar.
La scène est très belle. Shapur Bakhtiar a obtenu, le Shah s'est rendu en hélicoptère à l'aéroport de Mehrabad, c'est l'aéroport de Téhéran, et il attend Shapur Bakhtiar qui vient de recueillir un vote de confiance du Majlis, c'est-à-dire du Parlement iranien. Le deuxième hélicoptère se pose, le Shah monte dans l'avion qui s'appelle le Shahin, l'aigle, qui est un Boeing, Et puis il fait demander M. Bakhtiar qui monte la passerelle en courant. Et là encore, je cite l'ambassadeur Afshar, qui était témoin de la scène, en tant que grand maître des cérémonies. Bakhtiar monte, le Shah lui dit « Je vous confie l'Iran et je vous confie vous-même à Dieu ». Puis il va prendre les commandes du Boeing et il va piloter l'avion jusqu'à la limite de l'espace aérien iranien. Bien lui en a pris, enfin en tout cas c'est cette espèce de précaution qu'il avait pris, c'est un bon pilote de piloter son propre avion, était d'autant plus bienvenue que le pilote qui s'appelait le colonel Moezi a raconté plus tard, il était marxiste, il a raconté plus tard qu'il avait souhaité faire ce qu'il a écrit, faire tomber l'avion pour faire le sacrifice de sa personne et tuer le tyran.
Une sorte de kamikaze. Oui.
Voilà.
Alors, on reviendra sur la fin du Shah dans un instant. Que se passe-t-il en Iran? L'ayatollah Khomeini ne va pas tarder à débarquer à son tour.
14 jours plus tard plus exactement, parce que le Shah est parti le 16 janvier et l'ayatollah Khomeini est rentré le 1er février.
Oui.
Donc l'ayatollah Khomeini, il arrive, alors les deux, c'est amusant parce que le Shah part avec un Boeing et Khomeini rentre avec un Airbus. Et il se pose, alors à cette espèce de départ dramatique succède ce que nous avons appelé dans notre livre avec Pierre la parousie. Une véritable, on a l'impression que l'ayatollah Khomeini arrive du ciel et plusieurs millions d'Iraniens en délire sont là pour l'attendre. Son pilote, qui est un des chefs des Pasdars, c'est-à-dire des miliciens de la République islamique, s'évanouira tellement la pression autour du quatre roues dans lequel a pris place l'ayatollah. La pression populaire est si grande qu'on évacue l'ayatollah Khomeini jusqu'au cimetière du paradis de Zahra, qui est la grande nécropole de Téhéran. Et le pilote de l'hélicoptère est le chef de l'aviation impériale qui cherche à se faire pardonner. Tout le monde, les uns après les autres, tout le monde rallie la révolution. Les chefs de l'armée, l'Amérique reconnaîtra le nouveau régime 2 jours après le renversement de la monarchie, c'est-à-dire le 14 février. Et tout le monde suivra les États-Unis. Donc Khomeini a les pleins pouvoirs temporels, spirituels, internationaux, nationaux. Quant au Shah, c'est un oiseau blessé qui va errer jusqu'à sa mort à travers le monde.
Personne ne veut vraiment de lui, finalement.
Personne ne veut de lui. Il y a quelques cas qui sont assez intéressants. Il y a le cas de la principauté de Monaco, le chancelier Bruno Kreisky d'Autriche, bizarrement Ceausescu de Roumanie. Ce sont les quelques-uns qui acceptent le Shah. Et le Mexique, parce que le Mexique, je m'adresse à l'historien, le Mexique se flatte d'accueillir, que ce soit Trotsky ou que ce soit le Shah, d'accueillir les gens qui sont en mal...
L'exil ensoleillé.
Et qui sont poursuivis par la haine, soit de Staline, soit de Khomeini.
Alors, ce qui quand même est terrible dans cette affaire, c'est que en Iran, la révolution a très vite tourné à l'installation d'une dictature. Une nouvelle dictature, encore bien plus terrible que la précédente.
Je pense que j'ai été peut-être l'un des rares membres de l'ancienne famille régnante à être resté en Iran. J'avais, de par mes origines, par le sang, je ne suis pas un Pahlavi, j'avais pris une position, j'étais professeur d'université. J'ai un certain, c'est un peu ma coquetterie, je suis un peu fier de ma liberté et j'étais resté en Iran. Donc j'ai assisté, j'étais un peu comme, vous savez, un cancérologue qui voit un cancer rare dont est atteint sa mère. Je souffrais et c'était passionnant. La dictature, c'est-à-dire que l'Iran est sorti du Second Empire avec la censure, avec ses restrictions, avec les châtiments, la caricature de Daumier, les châtiments écrasant Victor Hugo. Alors c'est ce Second Empire iranien.
C'était le régime du Shah.
Les Iraniens poussent la porte. Et après le Second Empire, ils ne découvrent pas la Troisième République, mais le Moyen-Âge. C'est pathétique. Voilà un peuple tout entier qui a été trompé, qui s'est trompé et qui fait cette découverte. Mais je pense que la déception des gens a été galopante parce qu'on a commencé à traîner les généraux qui avaient déposé les armes, qui avaient fait un pacte d'allégeance presque à la République islamique, enfin à Khomeini. Ces gens-là sont arrêtés, à peine jugés, traînés vers le mur de ce qu'on appelle le mur Allah Akbar, Dieu est grand, et passés par les armes. On tue des gens qui sont très âgés, des sénateurs, des gens qui arrivent en fauteuil roulant.
Pour le monde, c'est le début d'une déstabilisation. Il va bientôt y avoir la fameuse prise d'otage à l'ambassade américaine. Il y aura la guerre avec l'Irak, terrible guerre qui commence en 1980. Et puis l'engrenage que l'on connaît, qu'on n'a même pas besoin de reprendre.
Absolument. Je sais que quand les deux tours jumelles se sont effondrées à New York, j'étais journaliste à ce moment-là, j'ai vu sur les dépêches tomber comme les crêpes tombent les unes sur les autres. Et je suis rentré chez moi, j'ai regardé un poste de télévision français et j'ai vu Christian Ballard, le journaliste, dire « Ce qui se passe aujourd'hui à New York a commencé à Téhéran ». C'était le début de la révolution islamiste.
Le marécage des ayatollahs, une histoire de la révolution iranienne, c'est de Christian et Pierre Pahlavi et c'est édité chez Perrin. Merci beaucoup de ce témoignage.
Vous restez avec nous sur Europe 1, au cœur de l'histoire continue, chers auditeurs, et nous serons de retour en France, Franck Ferrand. Vous répondrez à la question de Franck qui s'interroge sur la profusion de variétés de fromages en France.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et une fin très tardive de déjeuner pour répondre à la question de Franck aujourd'hui. Via la page Facebook de l'émission, il vous demande, Franck Ferrand, pourquoi la France a une variété aussi importante de fromages différents ?
Mais ça, c'est un héritage historique. C'est peut-être notre plus bel héritage du reste. C'est le général de Gaulle qui disait « Il y a autant de fromages que de jours de l'année en France ». La vérité, c'est qu'il y en a même davantage. La France a cette variété de fromages pour diverses raisons. D'abord, il y a une raison historique, essentielle. Il ne faut pas oublier que Pline l'Ancien lui-même, Pline l'Ancien, on est un peu avant Jésus-Christ, dans son Histoire naturelle, s'étonne déjà de la qualité, de la quantité des fromages gaulois. Vous voyez donc que ce n'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le fromage en France, ça remonte aux Gaulois. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a une très grande variété du paysage français. Donc, selon que vous avez affaire à des alpages, à la garrigue, à des prés verdoyants, du bocage, etc., évidemment, ce que mangent les vaches va avoir des conséquences sur leur lait. Et ces différentes qualités de lait vont entraîner différents fromages. Et je ne parle là que du lait de vache, mais il faut imaginer qu'on utilise également beaucoup, moi qui suis de vin, je suis bien placé pour savoir qu'on utilise beaucoup le lait de chèvre, mais aussi le lait de brebis, etc. Donc, une très grande variété des origines et des matières premières. Et puis, là-dessus, vient se greffer un savoir-faire. Ce savoir-faire, c'est celui de petites exploitations agricoles. On n'a pas en France ce système qu'on a dans bien d'autres pays, de grandes exploitations gigantesques qui auraient en quelque sorte, qui auraient lissé les savoir-faire. Là, chacun faisait quasiment son fromage à son idée. Et petit à petit, les générations et les siècles passant, chaque fromage est devenu une spécialité en soi. Visiter la France, c'est d'abord goûter ses fromages.